Nous allons parler également d'une autre actualité, Microsoft, à nouveau sur la sellette. En effet, Microsoft est accusé de position dominante par les autorités européennes. Bruxelles reproche au géant américain la vente liée de son navigateur Internet Explorer. Alors, des logiciels à moindre coût, l'ordinateur moins cher et vraiment accessible à tous, est-ce possible ?
Donc là, je le sélectionne, je ferme, et maintenant c'est celui-là qui sera sélectionné.
D'accord.
Parce que là, quand tu cliques ici, tu peux hiberner, redémarrer, éteindre.
On va pouvoir passer à ce monsieur une clé USB.
J'aimerais vous présenter mes invités qui débattront tout à l'heure de cette question. L'ordinateur, est-il vraiment accessible à tous encore aujourd'hui en 2009? Pour y répondre, Frédéric Couchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le délégué général de l'April. L'April en un mot, vous me définissez l'association?
Alors, l'April en un mot, c'est l'association nationale de promotion et de défense du logiciel libre. On est constitué de 4000 membres aujourd'hui.
Vous avez écrit un courrier à Service Public. Hein, vous nous avez envoyé une petite lettre, on vous a répondu. Vous voyez, enfin, on a mis quelques temps. Hein,
j'avais écrit ce courrier, je crois, en janvier 2008, oui, pour vous alerter sur le problème de la vente liée ordinateur-logiciel. Et suite à ce courrier, vous aviez organisé une première émission avec ma collègue Alix Cazenave, je crois, en juin 2008.
Et c'est un sujet qui est encore plus dans l'actualité parce qu'on voit que les logiciels libres se vendent de plus en plus. Est-ce que vous pensez que les gens sont perturbés par leur pouvoir d'achat et se disent que, justement, avec l'ordinateur, ils pourraient peut-être dépenser moins?
Alors, je pense effectivement qu'avec le pouvoir d'achat aujourd'hui qui baisse, la question effectivement du coût de l'ordinateur est une question centrale. Et aujourd'hui, l'enjeu effectivement, au-delà même d'ailleurs du logiciel libre, c'est que quand on achète un ordinateur, je pense que les gens aimeraient savoir ce qu'ils payent exactement dans la partie matérielle, dans la partie logicielle. Et par exemple, se dire que les 50 ou 100 euros qu'ils dépensent pour la partie logicielle Windows, ils pourraient éventuellement effectivement s'en passer et prendre un logiciel libre téléchargeable, par exemple, gratuitement sur Internet.
On va en parler également avec Édouard Barrero. Bonjour, vous êtes le chargé de mission pour les nouvelles technologies à l'UFC. Que choisir? L'ordinateur, encore un produit de luxe pour certains Français, d'après vous?
Bonjour, oui, de toute façon, ça restera toujours un produit de luxe pour une frange de la population. Il est vrai que le logiciel libre avec les netbooks a ouvert une brèche et donne accès à l'informatique, je dirais, des gens un peu plus modestes, mais il y a encore un grand travail à faire. Puis il ne faut pas négliger aussi que un ordinateur qui coûterait moins cher, c'est aussi les grandes marques qui feraient des ordinateurs en masse, sans le navigateur et sans le système Microsoft, parce qu'aujourd'hui, si on aurait Microsoft dans HP, il coûtera très cher parce que ça serait une petite série dans la grande production de HP.
Alors, sur la sellette, vous l'aurez compris, monsieur Microsoft ce matin, Marc Mossé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des affaires publiques de Microsoft, porte-parole de Microsoft France. Vous allez pouvoir vous exprimer dans la deuxième partie de l'émission, plutôt à partir de 10h30, mais en un mot, vous vous sentez justement dans l'œil du cyclone en ce moment avec Bruxelles qui semble quand même, Bruxelles vous accuse de position dominante.
Écoutez, il y a une procédure qui effectivement est en cours. On a un certain délai pour y répondre, mais les points qui ont été abordés à l'instant par Frédéric Couchet et Édouard Barrero sont un petit peu différents sur l'accès aux ordinateurs. On voit un phénomène qui s'ouvre effectivement, une liberté de choix, davantage de possibilités d'accéder aux ordinateurs en fonction des besoins, des usages que l'on veut. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il y a des évolutions tout à fait intéressantes, y compris dans la baisse des coûts sur les ordinateurs. Et je pense que tout à l'heure, on va pouvoir un petit peu tendre le cou à des idées reçues, à certains fantasmes. On va peut-être pouvoir dire les choses comme elles se passent réellement. Et donc, je vous remercie de nous donner l'opportunité.
François de Lyon vient de nous envoyer le courriel suivant. J'ai voulu acheter un nouvel ordinateur. Je n'ai trouvé personne pour me vendre un ordinateur sans système d'exploitation. C'était obligatoirement Microsoft Vista. Comment faire? J'ai l'impression que François est dans le vif de notre sujet ce matin. Je vous rappelle qu'avec mes invités, Frédéric Couchet pour l'association April qui milite pour les logiciels libres, Marc Mossé, le porte-parole de Microsoft France, et Édouard Barrero pour l'UFC Que Choisir, nous parlons de la possibilité, oui ou non, d'utiliser des logiciels libres. Première chose, peut-être avec vous, Marc Mossé, pour Microsoft. Quand je parlais en début d'émission de cette position dominante, est-ce que vous la contestez? Je rappelle quand même que vous avez été condamné à verser plusieurs milliers d'euros d'amende il y a un an, deux ans?
Millions.
C'était combien? 300 000? 300 millions?
50 millions, je crois.
50 millions?
Un petit peu plus. Mais c'est sur un sujet complètement différent de celui qu'on aborde aujourd'hui, parce qu'il s'agissait de relations entre entreprises, et c'était effectivement un cas qui avait été ouvert par des concurrents, des entreprises américaines. Mais pour revenir à la question que je comprends de votre auditeur, je crois que le bon prisme pour voir la question, c'est l'intérêt du consommateur. Et c'est vraiment
c'est ce qui nous intéresse
la problématique sur laquelle on doit se pencher. Aujourd'hui, il y a une liberté de choix. Elle se structure.
Elle existe vraiment, d'après vous?
Elle existe. On trouve, et c'est ce que disait d'ailleurs tout à l'heure Frédéric Couchet, on trouve des ordinateurs plus petits, notamment pour chatter sur Internet, qui sont sous logiciel libre, et on a vu se structurer une offre. Ce qui est important, c'est que le consommateur, confronté à un produit de haute technologie, parce que personne de contexte, c'est de la haute technologie, puisse avoir un produit simple, un produit stable et un produit sécurisé. Et je pense que quand on parlera d'accessibilité tout à l'heure, on évoquera aussi la possibilité pour les personnes handicapées d'accéder aux technologies d'information.
Je vois déjà des mails dans ce
parce
sens.
Parce que l'accessibilité, c'est pas simplement une question de prix, c'est aussi une question d'usage. Et quand on parle de fracture numérique, de déploiement des technologies d'information, il y a deux questions qu'il faut traiter, qui sont aussi importantes l'une que l'autre, qui est l'accès au matériel, et qui conduit à la question du prix et à la question de la simplicité, et la question des usages, notamment pour les personnes qui n'ont pas forcément toutes les facilités. Alors, sur la question de la simplicité, ce qui a été relevé par tout le monde, y compris dans le cadre d'actions judiciaires qui ont été engagées ici ou là par tel ou tel, c'est que l'ordinateur préinstallé, quel que soit le système d'exploitation qui est préinstallé, l'est dans l'intérêt du consommateur. Dans l'intérêt du consommateur, parce que c'est très simple, si vous n'avez pas de système d'exploitation, l'ordinateur ne peut pas fonctionner. C'est un petit peu comme son moteur, ou si vous préférez, comme les pneus d'une voiture. Vous avez une voiture, en général, il y a différentes marques de pneus qu'on peut trouver chez un concessionnaire, sauf que quand vous achetez la voiture, pour sortir de la concession, en général, il y a des pneus. Ça ne vous empêche pas de les changer si vous en voulez d'autres. C'est vraiment l'idée d'avoir un produit manufacturé, un produit complet, et qui encore une fois est un produit complexe. Pourquoi? Parce que c'est pas simplement l'installation du système d'exploitation qui est au cœur de l'histoire, c'est le paramétrage du système d'exploitation avec tous les logiciels, tous les périphériques qui existent autour.
Dites-moi juste si vous pensez que l'expression ventilier est exagérée, d'après vous.
Bah, écoutez,
on achète un ordinateur et on est quasiment obligé d'acheter votre logiciel en même temps.
D'abord, deux choses. La première, j'avais entendu ça lors d'une émission précédente, il est souvent dit qu'il y a une exclusivité. Moi, je voudrais tordre le cou à ce qui est une inexactitude, pardon, une contre-vérité. Il n'y a aucune exclusivité, aucune clause d'exclusivité
bien
dans
sûr,
nos contrats
mais vous
avec
voyez,
les fabricants.
Dans les mails, c'est ce qui nous revient, c'est ce que nous disent les consommateurs.
Tout à fait. Et ils sont libres d'installer les systèmes d'exploitation qu'ils veulent. Et on voit aujourd'hui d'ailleurs des fabricants qui installent d'autres systèmes d'exploitation. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a une demande de la part du public qui se structure différemment. Et d'autre part, il y a des produits qui n'étaient pas matures, qui n'étaient pas prêts et qui n'étaient pas simples il y a quelques années et qui petit à petit le deviennent. Et on voit les fabricants d'ordinateurs qui ne sont pas des philanthropes.
J'aimerais bien avoir l'avis d'Edouard Barrero pour l'UFC Que Choisir. Marc Mossé, on a entendu votre point de vue, votre ligne de défense. Pour vous, pas de ventilier. Edouard Barrero, j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Et puis une information aussi pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent aussi le paysage dans lequel nous sommes. Depuis un an ou deux, les gens achètent beaucoup moins de logiciels de Microsoft. Je crois que vous aviez une position effectivement qui était à 90%. C'était le logiciel le plus acheté au monde, c'est ça, je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, en France, on n'en est plus qu'à 70%. Les gens s'intéressent de plus en plus au logiciel libre. Pour quelles raisons?
Alors, avant, quand même, je voudrais corriger quelque chose de ce qu'a dit M. Mossé, c'est qu'on n'a pas le choix. Parce que vous dites, on a le choix de Linux, mais il ne faut pas oublier que les ordinateurs qui sont aujourd'hui équipés de logiciels libres, ce sont un segment de marché très défini, qui sont des ordinateurs d'entrée de gamme. Les ordinateurs qui composent le plus gros du marché, c'est-à-dire ordinateurs de 15 pouces, ordinateurs pour faire du multimédia, sont toujours lié à Microsoft. Et d'ailleurs, j'ai eu une discussion très intéressante avec la grande distribution qui me disait, effectivement, on a un gros point avec Vista, c'est que les gens ne l'aiment pas ce système. Il y en a même d'ailleurs beaucoup qui demandent à passer à XP.
Il marche pas bien.
Et on ne veut pas. Et quand même, je veux quand même dire qu'aux États-Unis, il y a un nouveau mot dans le dictionnaire.
Je peux donner juste une étude qui était utile, pas une étude de Médiamétrie, un institut bien connu, de juin 2008, où le taux de satisfaction d'adoption de Vista était de 80%. 80%. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le taux d'adoption de Vista par rapport à XP, même s'il a été plus long au démarrage, aujourd'hui est beaucoup plus important et beaucoup plus rapide.
Mais grâce à l'avant-pied, vous le savez bien. Il y a comme un nouveau mot dans le dictionnaire américain pour dire accident industriel, c'est Vistaster. Le logiciel, quand c'est sorti, était tellement mauvais, il a tellement rebuté les consommateurs, qu'il a eu une très très mauvaise presse. Et on a eu beaucoup beaucoup de demandes de consommateurs qui voulaient changer de système, et même pas pour aller au libre, pour aller à XP tellement ils n'aimaient pas Vista.
Parce qu'il y a plein beaucoup sur les forums et sur les blogs
de système. Et le système aujourd'hui est de meilleure qualité, parce que vous avez corrigé quelques défauts, certes, mais vous avez quand même réussi à vendre un logiciel que le consommateur n'aimait pas, ne trouvait pas de bonne qualité grâce à la ventilier. Alors je tiens bien à insister qu'aujourd'hui, sur le segment de marché du grand public, on n'a toujours pas le choix.
Donc, vous l'affirmez, il s'agit vraiment de ventilier.
Il s'agit de ventilier, pour laquelle Bruxelles... nous sommes toujours en procédure sur ce sujet-là et on ne lâchera pas, c'est la ventilier. Tant que le consommateur n'aura pas le choix sur son système pour un ordinateur grand public, ce sera de la ventilier.
Juste un point, parce qu'on va pas rentrer dans un débat juridique sans fin, puisqu'effectivement, Édouard Barrero précisait qu'il y avait...
C'est pas du tout un débat juridique. Moi, je me mets à la place du consommateur qui se rend effectivement dans une grande surface, qui désire acheter un ordinateur, qui n'a pas forcément de gros moyens, il veut acheter un ordinateur moyenne gamme. Effectivement, il se sent obligé d'acheter votre logiciel qui coûte, on va le rappeler, vous l'avez dit, entre 50 et 100 euros. On peut parler quand même de ventier.
Alors, encore une fois, moi je veux pas trancher les questions qui sont posées par ESC Que Choisir à la justice dans les procédures où nous ne sommes pas impliqués. C'est important de le préciser. Ce que je retiens, c'est qu'un certain nombre de juges, y compris la Cour de cassation, ont dit très simplement que l'ordinateur préinstallé, parce que c'est un produit complexe, l'était dans l'intérêt du consommateur. Préinstallé, après, encore une fois, les fabricants ont la liberté de choix d'installer le système qu'ils veulent, puisqu'il n'y a aucune exclusivité. Et les juges l'ont dit, encore une fois, le dernier, c'est novembre 2010, c'est Tarascon, juge Tarascon, qui dit, c'est un produit complet, qui est un produit complexe, et qui est vendu avec un certain nombre d'éléments paramétrés, parce que c'est l'intérêt du consommateur en termes de simplicité, en termes de facilité d'accès, et on y reviendra j'espère tout à l'heure, en termes d'usage, parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Quand on dit système d'exploitation, on a dit beaucoup de choses et on n'a rien dit. On n'a rien dit de la sécurité, on n'a rien dit de la stabilité, on n'a rien dit de l'accessibilité et on n'a rien dit de la protection de la vie privée.
Les internautes, je vais les laisser s'exprimer, ont tendance à dire que justement la sécurité est meilleure sur les logiciels libres parce que tous les bénévoles peuvent corriger en temps réel les défauts d'un logiciel. Frédéric Couchet, je vais vous laisser parce que moi je ne suis pas forcément une experte en la question, mais qu'en pensez-vous ?
Alors, je vais répondre sur la sécurité, mais je vais quand même revenir sur ce que venait de dire Marc Mossé. Sur la sécurité, effectivement, tous les experts sécurité considèrent que la sécurité par la transparence, c'est-à-dire l'accès au code source, est meilleure que la sécurité, effectivement, par l'obscurantisme, c'est-à-dire la boîte noire dans laquelle on fait confiance. Mais par rapport à ce que vient de dire Marc Mossé, deux choses. Il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec lui, c'est vrai que les gens ont envie d'avoir des logiciels préinstallés. Il y a une étude du CREDOC, qui est le centre de recherche pour l'étude et l'observatoire des conditions de vie, qui dit que les gens qui vont acheter un ordinateur cette année, à 63%, veulent avoir le choix de leur ordinateur. Et à 12%, veulent un ordinateur nu. Donc la majorité, effectivement, veut avoir le choix d'un système préinstallé, mais aujourd'hui, concrètement, ils n'ont pas ce choix-là. Nous, ce qu'on demande, c'est très simple, en fait, c'est que effectivement, il peut y avoir des logiciels qui soient préinstallés, mais pas préactivés. Et que c'est au choix ensuite du consommateur de dire ben moi je veux préactiver par exemple ou activer par exemple Microsoft Windows, mais par exemple je ne veux pas activer Microsoft Office parce que je vais installer l'équivalent logiciel libre OpenOffice, ou par contre je ne veux pas préactiver ou activer Microsoft Windows parce que je veux activer plutôt le système logiciel libre qui sera installé. Donc ce qu'on demande en fait, c'est que les conditions d'usage des licences, les prix des différents éléments soient affichés. Et qu'au final, on ait l'optionnalité. Et moi, j'ai une question simple à poser à Marc Mossé. Nous, on a vécu un cas la semaine dernière. Ma collègue, donc justement, Alix Cazenave, son ordinateur a rendu l'âme immédiatement. En urgence, on a dû acheter un ordinateur. Elle a été dans un magasin. Elle a fait plusieurs magasins. Impossible d'avoir un ordinateur sans système d'exploitation préinstallé. Impossible d'avoir un remboursement. Donc finalement, elle a acheté un Toshiba. Elle a appelé le support technique de Toshiba pour savoir quelle est la procédure de remboursement. Et Toshiba demandait le renvoi à ses frais de l'ordinateur. C'est-à-dire de renvoyer l'ordinateur pour faire une désinstallation de Microsoft Windows. Alors moi, j'ai simplement deux questions à Marc Mossé. Est-ce que Marc Mossé est d'accord sur le fait de mettre en place l'optionnalité ? Et deuxième question, que propose Marc Mossé aux constructeurs et aux distributeurs pour faciliter cette mise en place de l'optionnalité et notamment faciliter les procédures soit de remboursement, soit effectivement l'optionnalité en magasin. Aujourd'hui, concrètement, ce que nous disent les distributeurs et les constructeurs, c'est que les accords qui sont totalement fermés avec Microsoft dans lesquels on n'a aucune information, les empêchent de mettre en place des procédures réellement non contraignantes pour le consommateur.
Alors, la réponse de Microsoft.
La réponse de Marc Mossé, c'est que, encore une fois, je risque de me répéter, mais il n'y a pas d'exclusivité dans les accords. Bon, il faut le dire et le redire. Ce sont des contrats d'ailleurs qui sont...
Dans les accords, oui, mais vous le voyez dans la vie quotidienne.
Alors, dans la vie quotidienne, moi je vais dire les choses très simplement. Il y a plus d'un an et demi de ça, on s'était vu au siège du FC Que Choisir, boulevard Voltaire, avec Édouard Barrero et à l'époque Julien Dournion. J'avais fait une proposition qui était de dire, ce qui est clé dans cette question-là, c'est l'information du consommateur et la transparence sur les produits et les procédures qui existent. Et j'ai dit, essayons de travailler ensemble pour voir comment on peut, alors, est-ce que c'est des petites affichettes, des petits livrets, pour donner de l'information et de la transparence aux consommateurs. Je crois qu'il y a un certain nombre de distributeurs, je ne veux pas donner de nom ici, qui affichent les procédures si on veut obtenir le remboursement.
Donc moi j'ai aucun souci là-dessus en termes d'information et de transparence du consommateur dans le point de vente avant qu'il n'achète son ordinateur pour qu'il soit effectivement renseigné. J'observe juste une chose qui est liée à des contrats de licence, qui sont encore une fois des contrats mondiaux, pas des contrats pour la France, et qui font que les procédures de retour de produits sont les politiques des constructeurs, ce ne sont pas les politiques de Microsoft. Ils peuvent faire le choix soit de rembourser le système d'exploitation si le consommateur revient avec, soit l'entière machine, et ça va dépendre à chaque fois de chaque constructeur. Mais moi, je dis les choses très simplement, si on doit travailler ensemble pour plus d'informations dans le point de vente, pour plus de transparence sur quelles sont les conditions, donner nos conditions de licence avant que les gens ne l'achètent. Moi, je suis tout à fait prêt, je l'ai dit il y a un an et demi, donc je ne vais pas changer d'avis, pour qu'on le fasse, dans cet esprit-là, encore une fois, pour qu'il y ait une liberté de choix, encore une fois, dans l'intérêt du consommateur.
Un mot rapidement.
Rapidement, à ce moment-là, qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que la solution qui soit la meilleure pour le consommateur, qui n'est pas celle du remboursement, qui essaye de payer en caisse ce qu'il a vraiment acheté, ce qu'il va vraiment utiliser, donc possibilité de refuser le contrat de licence d'utilisateur de Microsoft en magasin, et de, en caisse, payer uniquement ce qu'il va utiliser, partie logiciel et partie ordinateur. Qu'est-ce que concrètement vous proposez pour que les distributeurs mettent ça en place ?
Moi, je ne proposerai rien pour une raison encore très simple, c'est que le PC, l'ordinateur, ça peut être d'ailleurs, on connaît une firme à la pomme qui est dans la même situation, hein, qui vend des systèmes totalement propriétaires.
Pas exactement le même cas. C'est pas exactement le même cas.
Ah bon, donc je préciserai après. Je trouve que c'est quand même tout à fait le même cas parce que tout le monde est dans la même situation.
Non, c'est pas le même cas.
Le point est très simple. Ce sont des politiques de fabricants. Des politiques de fabricants. Nous, on vend les licences au niveau mondial, en gros, hein, c'est comme une vente en gros, à un prix de gros, un prix de volume. Et après, ils l'installent, ils le paramètrent avec les périphériques. Est-ce que vous savez que pour un constructeur, mais j'allais dire, ce serait plutôt à eux d'en parler, et sur ces questions-là, c'est à eux d'y répondre, mais est-ce que vous savez que pour un constructeur, ce qui coûte le plus cher, c'est pas tant d'installer le système d'exploitation en lui-même, mais tous les tests, une fois qu'il est installé, y compris avec les périphériques, et il faut savoir également qu'en moyenne, sur un ordinateur, il y a 35 logiciels préinstallés qui ne sont pas des logiciels Microsoft. Multimédia, sécurité, contrôle parental, tout un ensemble d'outils qui sont paramétrés avec le système d'exploitation, et ça serait la même question avec un autre système d'exploitation. Donc, moi, je dis une chose très simple, on a parlé de pouvoir d'achat au début. Qu'est-ce que c'est quoi l'histoire de l'informatique ? C'est de rendre plus simple un produit compliqué, en l'industrialisant, donc en faisant baisser le coût d'accès. Si vous le rendez plus compliqué, non seulement vous avez une problématique sur la simplicité, mais vous avez une problématique de coût, parce que personne n'est dupe.
Mais je ne sais pas si vous avez vraiment répondu à la question, Frédéric Touché.
J'ai l'habitude d'avoir remorcé.
On sent bien qu'il y a une intention générale, mais concrètement, quand on arrive à la caisse, qu'est-ce qui se passe pour le consommateur? Moi, je voudrais continuer un petit peu dans l'éclairage qu'on donne ce matin aux auditeurs de France Inter, parce que vous avez, Frédéric, utilisé un certain nombre de mots un peu techniques, alors je ne voudrais pas non plus que nos auditeurs soient perdus. Édouard Barrero, puisque vous travaillez pour l'UFC Que Choisir, pouvez-vous nous redonner quand même en deux, trois mots les clés du problème quand on achète un ordinateur Donc, quand on veut avoir accès à Internet avec Internet Explorer, par exemple, quelle est la différence de prix entre cet ordinateur-là avec le système dont nous parlons, Microsoft, et quand on achète un ordinateur nu, comme l'a dit Frédéric Couché, quelle est la différence de prix ?
Alors, en fait, il y a un gros problème. C'est parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un problème d'échelle de production. Donc, si aujourd'hui vous essayez de trouver un ordinateur nu sans Microsoft, il sera plus cher qu'un ordinateur avec Microsoft. Pourquoi ? Parce que ces lignes de production sont très restreintes, il n'y a pas d'économie d'échelle. Tout le problème est là. C'est-à-dire qu'il faudrait que les producteurs comme Hewlett-Packard, Siemens, etc., et des lignes de production complètes de logiciels pour que ce soit moins cher. C'est ça le souci. Sur les petits ordinateurs netbook, on voit des différences de prix sont énormes parce que justement, ils ont fait des grandes chaînes de prix. Et là, ça joue à 150 euros, 200 euros, voire plus. Parce que, outre le fait que le logiciel libre est gratuit, les ordinateurs qui travaillent sous Windows ont besoin de beaucoup plus de puissance. Donc, ça coûte cher de mettre un ordinateur Windows parce qu'il faut mettre un ordinateur plus puissant. C'est pour ça que, par exemple, sur les gammes Asus, vous voyez que l'ordinateur Windows est systématiquement plus gonflé en termes de processeur de RAM. Le consommateur croit qu'il achète un ordinateur plus puissant, mais en fait, il rend le même service que l'autre parce qu'il faut beaucoup plus de ressources matérielles pour qu'il fonctionne bien.
C'est très précis hein, ce que vous nous dites. Hein. Beaucoup d'auditeurs ont envie d'aborder la question des Macintosh. Hein, on va le faire, la fameuse marque à la pomme hein, dont vous parliez. On va le faire dans un petit instant. Moi, je vous propose de faire une petite pause en écoutant le reportage d'Antoine Lee. Est-ce que vous connaissez les install parties? J'imagine que mes invités, bien sûr, les connaissent. Ces install parties, c'est nouveau. Hein, mais ça.
On y va ensemble.
Oh, si, c'est assez récent. Vous y allez? Ah bon?
Je vous invite à la prochaine, effectivement.
Avec plaisir.
Les install parties, sachez, connaissent un succès grandissant. Ce sont des réunion qui permettent d'installer justement ces logiciels libres. On peut en trouver un peu partout en France. Il y a deux rendez-vous, je crois, annuels qui se tiennent à Paris, à la Villette. C'est une manière justement d'initier les néophytes. Alors c'est l'occasion également de récupérer gratuitement les dernières versions des logiciels libres. Antoine Lee a suivi Olivier, Emmanuel, Frédéric au cours d'une de ces réunions.
Alors je le sélectionne. Touk. Je ferme. Et maintenant, c'est celui-là qui sera sélectionné.
D'accord.
Parce que quand tu cliques ici,
oui,
tu peux hiberner, redémarrer, éteindre.
On va pouvoir passer à ce monsieur une clé USB qui contient des logiciels libres et qu'il va pouvoir recopier sur son ordinateur pour pouvoir les installer.
Et comment se déroulent les réunions de découverte ?
En fait, c'est une réunion pour pouvoir expliquer ce qu'est GNU Linux à des personnes qui ne connaissent pas. Et pouvoir aider des personnes qui veulent justement l'avoir installé sur leur ordinateur mais qui ne sont pas qui n'ont pas envie de mettre les mains dans la machine quoi.
Et c'est payant, c'est gratuit ?
Non, c'est totalement gratuit, c'est juste des bénévoles, on s'aide, on s'entraide, on discute et non, c'est totalement ouvert et gratuit.
Est-ce que c'est compliqué d'avoir accès au logiciel libre hein, parce qu'on se dit oh là là, il faut être informaticien, il faut faire des études d'informatique.
Pas du tout, c'est très simple, c'est très simple. Aujourd'hui dans toutes les régions de France, il y a des groupes d'utilisateurs de Linux et de logiciels libres. Ces gens-là ne demandent qu'à vous aider, ne demandent qu'à vous expliquer les choses, à vous donner à la rigueur s'il y a un petit manque de vocabulaire, à vous expliquer ce qui peut vous manquer. Et le but, c'est vraiment de faire de l'échange. Si quelqu'un n'arrive d'ailleurs pas à trouver de groupe d'utilisateurs de Linux et de logiciels libres près de chez lui, Internet est là et lui permet de communiquer avec de nombreuses personnes par le biais de listes de diffusion de mails, par le biais de forums, par le biais de chats.
En fait, on a vraiment tous les types de personnes. On a des couples qui viennent, on a des familles qui viennent, on a des personnes âgées parce que elles se disent tiens, je suis à la retraite et j'ai besoin d'avoir un ordinateur pour discuter avec mon petit-fils qui est en Amérique ou à l'autre bout du monde. C'est vraiment fait pour monsieur et madame tout le monde, quoi.
Comme moi, je suis allée à un cours, c'est lui qui l'a donné à la Villette. Il y avait porte ouverte à la Villette deux jours. Et bien je suis partie de zéro à 61 ans. Je viens aux soirées Paris Nux. Et moi, je suis justement un peu une novice, comme dont il parle. Je m'informe, voilà, j'essaie de voler mes propres ailes.
Qu'est-ce qui vous motive tous, là ?
En fait, quelque part, ça rejoint les idéaux de la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire qu'avec le logiciel libre, nous avons tous les mêmes droits, nous sommes tous égaux devant le logiciel libre. C'est l'occasion de nous retrouver entre gens, c'est donc la fraternité. Et nous sommes libres de faire ce que nous voulons de ces logiciels libres.
Et si participer à une install party vous intéresse, nous mettons en ligne sur le site de franceinter.com, sur le site de service public, tous les renseignements. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire part aussi de cette question de Chantal. Désespérée, j'ai 70 ans, je pleure parfois devant mon ordinateur, c'est une expression hein, bien sûr. Où peut-on prendre des cours ? Avez-vous un conseil à donner à cette auditrice hein, qui veut se perfectionner et en savoir plus sur le maniement de son ordinateur ?
Mais il est vrai qu'avec la multiplication de l'informatique dans tous les types, toutes les classes d'âge de la population, il y a beaucoup d'entreprises qui sont créées de services informatiques qui proposent 2-3 heures de cours. Et mais il faut bien comparer. Je sais que le magazine Choisir a fait un comparatif justement de ces différents services parce qu'ils sont pas tous d'une très bonne qualité. Donc il faut vraiment faire attention à ça et au bouche à oreille aussi.
Bouche à oreille. Il y a des organismes privés également auxquels on peut s'adresser.
Il y a des organismes
s'adresser.
Publics oui. Comme et les espaces publics numériques, les EPN, espaces publics numériques, qui sont présents dans toutes les régions, qui sensibilisent à l'informatique. Et certains sensibilisent à la fois au logiciel propriétaire et au logiciel libre, comme par exemple à la Cité des sciences et de l'industrie, où ils ont une cyberbase. Donc ça, c'est un endroit où on peut aller pour se former à l'informatique.
Question de nos auditeurs. Hervé Alil nous dit, mais bonjour, mais rien n'est gratuit. Pardon, il nous dit bonjour tout d'abord, et ensuite il nous dit, mais rien n'est gratuit. Combien coûte exactement un logiciel libre ? Réponse.
Mais pour consommateur, zéro.
Zéro.
Il suffit juste de télécharger sur le net et de mettre son ordinateur. D'ailleurs, j'insiste sur le fait du paramétrage, de la difficulté. On avait fait faire des tests avec des huissiers et des experts auprès des tribunaux pour le prouver. Vous prenez un Ubuntu ou un Mandriva, vous le mettez dans votre ordinateur, vous démarrez l'ordinateur et il s'installe automatiquement et ça fonctionne.
Donc nos auditeurs ont du mal quand même à appréhender cette idée de gratuité. Mais j'aimerais insister quand même là-dessus. L'idée du logiciel libre, elle fonctionne beaucoup, comme on vient de l'entendre avec l'install party, elle fonctionne beaucoup avec ces notions d'entraide, de solidarité. Ça rejoint d'ailleurs notre premier thème. On parlait de la solidarité qui était en vigueur au moment de la tempête pendant le week-end. C'est un peu cet esprit-là. Quand je parlais des bénévoles qui essaient essaye d'améliorer les logiciels, c'est un système quand même extraordinaire. Tout le monde peut mettre la main à la pâte et tout le monde peut améliorer le logiciel. C'est quand même un système fantastique. Et tout cela se fait gratuitement.
Alors, je vais revenir sur la gratuité. La base, effectivement, quand même, du logiciel libre, c'est le partage, c'est la coopération, quelque part sur le même modèle que la recherche scientifique, où finalement chacun produit des briques, et finalement on réutilise ces briques, et on rajoute juste ce dont on a besoin. Sur la gratuité, c'est vrai que la plupart des logiciels libres sont téléchargeables gratuitement sur Internet. Mais vous avez des entreprises, comme par exemple une société française qui s'appelle Mandriva, qui vend dans les grandes distributions du logiciel libre, sa distribution Mandriva, avec un CD-ROM, un manuel, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que peu importe finalement comment on s'est procuré le logiciel libre, qu'on l'ait payé ou qu'on l'ait téléchargé gratuitement sur Internet. Ensuite, on a la liberté d'usage et de copie. Et ça, c'est fondamental, notamment tout à l'heure quand on parlait de la réduction de la fracture numérique, ou plutôt des fractures numériques. Dans les fractures numériques, il y en a quatre. Il y a l'accès, il y a l'ordinateur, accès à Internet, il y a l'ordinateur, il y a les usages, et il y a la production de contenu et d'usage. Et ce qui est intéressant, c'est donc finalement les fractures numériques, c'est à la fois économique et culturel. Mmh. Sur l'aspect économique, le logiciel libre, sa réponse, c'est de dire, une fois que vous avez un exemplaire du logiciel libre, vous pouvez en faire des copies pour le passer à des amis ou pour l'installer dans votre entreprise, par exemple. Et d'un point de vue culturel, le logiciel libre vous permet de mieux apprendre parce qu'il vous permet de comprendre.
Nous avons une question de Caroline qui habite à Rouen.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Caroline, je vous écoute.
Alors, d'abord, j'avais une question pour le représentant de Microsoft.
Il est très à l'écoute.
Est-ce qu'il y a des petites rumeurs qui courent comme quoi Microsoft préfère payer des amendes pour que la FNAC puisse vendre un ordinateur avec Windows dessus directement, que le client n'ait pas le choix en fait entre Windows ou un logiciel libre.
Alors, réponse de Marc Mossé. Vous faites des pressions sur la FNAC?
C'est une rumeur totale. Il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de question avec la FNAC. Non, c'est une rumeur. Je ne sais pas où ça circule sur des blogs, mais c'est une inexactitude.
Est-ce que c'est un cas précis ou est-ce que c'est une idée de dire que vous préférez avoir les amendes de la Commission européenne et de continuer votre même système économique? Oui, c'est ça, je pense plutôt. Oui, parce que c'est rentable pour vous.
Non.
Le fait que Bruxelles s'intéresse à vous, là, très récemment, est-ce que vous pensez, voilà, comment ça va se terminer? Vous pensez que vous allez être condamné ou pas?
J'en sais rien, puisque c'est juste un début de procédure où on nous pose des questions auxquelles il faut répondre. Donc, on y répondra pour se conformer
si
à la loi.
Explication sur le fond, c'est quand même très intéressant ce cas-là, parce que on n'en parle pas, mais Internet Explorer est livré de manière systématique avec Windows. Ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que, bon, vous l'avez déjà sur ordinateur, que vous ne pouvez pas le désinstaller en plus. Et le deuxième point, c'est que Windows utilise le langage HTML standard, donc qui devrait communiquer avec tous les autres systèmes comme Mozilla Firefox ou Safari d'Apple. Le seul problème, c'est que Microsoft modifie le code HTML, bien que lorsqu'une page Internet fonctionne bien avec Internet Explorer, elle ne fonctionne pas très bien avec les autres systèmes. C'est d'ailleurs un des points de la plainte. Et ça, je peux le vérifier parce que j'ai moi-même fait un site pour micro avec une inscription de Microsoft et ça ne marchait pas sur Firefox.
Je vais repasser la parole à Caroline, on lui a un petit peu coupé la parole. Mmh. Caroline, vous avez posé toutes vos questions ou pas? On a répondu à vos questions.
Je sais pas si... Parce que c'est vrai que la Commission européenne, elle interdit normalement de forcer à acheter un logiciel. Et là, on n'a pas le choix quand on va dans certains magasins.
On revient effectivement toujours à ce problème.
Pardon, et juste parce qu'on entretient facilement la confusion entre différents sujets. Le sujet qui
c'est
fait l'objet...
C'est un peu toujours le même sujet, moi, je trouve. On parle de la banque depuis tout à l'heure.
Oui, mais je vais vous apporter une réponse très précise. Non, parce que c'est pas les mêmes questions, celles qui sont posées par la Commission dans le cadre de la procédure que vous avez évoquée, et la question des ventes pour les ordinateurs. Parce que figurez-vous que la commissaire à la concurrence, Nelly Kroes, le 27 novembre 2007, interrogée sur la question des ordinateurs préinstallés, a répondu officiellement au Parlement européen que cela n'était pas contraire au droit de la concurrence. Donc, sur ce sujet précis, vous voyez que ça n'est pas une question.
Mais il n'empêche que Bruxelles vous accuse à nouveau de position sujet, dominante.
Sur un autre
on va essayer
sujet.
De progresser dans notre débat. Frédéric Couchet, je suis désolé, on va prendre le retour. Il est 10h48. Nous allons prendre un auditeur de Carcassonne. Pierre, bonjour, je vous écoute.
Allô, bonjour. Je suis à la fois dans le sujet et pas dans le sujet. Mmh. Je voulais juste préciser que pour acheter un ordinateur moins cher, on n'était pas obligé d'acheter un ordinateur de marque et on pouvait très bien s'adresser à un assembleur. Il y en a partout. Il suffit d'être conseillé chez un bon informaticien. Et là, dernièrement, il y a 15 jours, j'ai acheté un ordinateur 64 bits à 283 €. Et j'ai demandé à ne pas avoir de logiciel de système d'exploitation dessus. J'ai installé à la fois Ubuntu d'une part et en parallèle un XP Pro De manière à pouvoir avoir les deux systèmes d'exploitation, et je fais la différence, quoi.
Merci de ce conseil, Pierre. Pour être équipé moins cher, il faut donc être très malin et bien informé. Très rapidement, Edouard Barrero, votre réaction.
Oui, un souci, c'est que les ordinateurs les plus vendus en France aujourd'hui sont les portables, et lorsque vous voulez faire assembler un portable, ça coûte très 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 cher.
Nous avons également en ligne David Assouline, qui est sénateur, auteur d'un rapport sur la question de la fracture numérique, mais pas seulement, sur également toutes ces questions liées à l'ordinateur et aux jeunes. Bonjour David Assouline, merci d'être avec nous et d'avoir patienté.
Oui, bonjour.
Bonjour. Dans votre rapport, vous auscultez effectivement très bien ce thème de la fracture numérique dont on a parlé ce matin. L'ordinateur accessible à tous, c'est une vraie question. Et puis vous faites un certain nombre de propositions. Alors je peux malheureusement pas toutes les détailler. Est-ce que vous voudriez nous dire quelle serait la proposition ou les deux, trois propositions qui seraient les plus rapidement applicables?
C'est avant tout un rapport sur l'impact des nouveaux médias sur la jeunesse.
Oui.
Ça essaie de décrire le bouleversement des rapports de la jeunesse au divertissement, à l'information, à l'éducation, sans qu'il y ait une pensée de la société, des valeurs posées et des actions pour prendre en compte ce phénomène. Donc on va dire que pour être positif, j'insiste avant tout sur les propositions en termes d'éducation, et je propose qu'il y ait et en quatrième et en seconde des modules de 10 heures obligatoires d'initiation aux nouveaux médias et en particulier à Internet.
Mmh. Plus de pédagogie, hein. Vous pensez qu'il...
De l'éducation.
Il faut qu'on démocratise l'outil ordinateur, l'outil Internet également?
Oui, il faut le démocratiser, et en même temps, le démocratiser, c'est aussi donner un sens, c'est-à-dire que c'est pas tout et n'importe quoi, et il faut que les jeunes puissent et se prévenir des risques, parce qu'il y a des risques, ils sont aussi des proies, et aussi avoir cette distance critique, tout ce qu'ils font ou ce qu'il y a sur Internet, il faut qu'ils puissent le juger, il faut qu'ils puissent vraiment se saisir de cet outil pour
et
leur
garder un esprit critique, ouais.
Oui, que ça leur serve à une émancipation, que ça leur serve à démocratiser leur rapport à la culture, ce qui est déjà pas mal fait, parce que jamais ma génération n'aurait eu autant accès, par exemple, à la musique, même si ça pose des problèmes pour les droits d'auteur, etc. Il y a une ouverture d'esprit énorme, et en même temps, on voit tous les risques avec une certaine perte de l'anonymat aussi dans un certain nombre de rapports. La France est championne du monde des blogs d'adolescents. Et les adolescents, très souvent, n'ont pas du tout conscience que ce qu'ils mettent là, qui est parfois assez intime, est visible par des millions de gens. Et donc, toutes ces choses-là, il faut qu'ils le sachent et il faut que ce soit pris en compte dans l'éducation nationale.
Plus de pédagogie, hein, donc oui. C'est ce que vous recommandez. Juste une chose encore, puisque on utilise souvent l'expression « Internet pour tous ». Il paraît même que c'est une priorité du chef de l'État. Comment vous réagissez à cela?
Je réagis... C'est bien, et en même temps, parce qu'il y a une fracture numérique, comme vous le dites, qui est une fracture sociale et peut-être maintenant surtout territoriale. Ça nécessite des investissements énormes. Je crois que les États-Unis et notamment Barack Obama a donné le signal en cette période de crise, qui est de miser sur l'avenir. Là, il y a un secteur énorme. Et très souvent, là, une petite critique pour les fournisseurs d'accès, les télécoms, ils se reposent sur les collectivités territoriales. Il faudrait qu'ils les aident beaucoup plus à faire que tout le territoire puisse être vraiment couvert, qu'il y ait des actions vers les personnes isolées, vers les gens les plus fragiles, pour qu'ils puissent avoir cet outil qui est maintenant aussi impératif que le libre accès ou l'égalité des droits à une certaine époque pour le courrier, la poste, etc. Donc on ne peut plus vivre vraiment à égalité avec les autres si on n'a pas cet outil. Il y a encore beaucoup d'endroits où on ne l'a pas. Mais il faut relativiser en même temps, parce que un des faits majeurs, c'est que 96% des jeunes de 10 à 17 ans surfent sur Internet.
Et possèdent bien souvent Internet à la maison également. Ah. Juste une dernière question. Oui. Vous êtes sénateur au Sénat, vous êtes équipé avec Microsoft ou avec des logiciels libres?
Microsoft.
Ah ben voilà.
Mais, bon, moi j'alterne.
Il faudrait peut-être que les pouvoirs publics donnent l'exemple alors. Hein. Merci beaucoup David Assouline.
Mais pas à la mairie de Paris. Logiciel libre
à la mairie de Paris. Merci David Assouline. Frédéric Couchet.
Alors déjà rappeler que les députés à l'Assemblée nationale utilisent du logiciel libre depuis
maintenant
un an.
Voilà, vous savez bien qu'il y avait une différence entre le Sénat et
je voulais réagir au propos du sénateur Assouline sur la formation des jeunes pour signaler que à la rentrée 2009, dans le module de, il va y avoir en seconde un module informatique et société numérique dans lequel vont être abordés un certain nombre de sujets, dont les sujets qu'a abordé David Assouline. Mais également, il est important dans ces sujets-là d'aborder au-delà des outils le fonctionnement de l'informatique, c'est-à-dire expliquer aux gens ce qu'est un ordinateur, comment sont représentées les données sur un ordinateur, comment fonctionnent les réseaux, pour leur permettre de vraiment appréhender complètement cette révolution numérique. Donc on espère que dans le programme de ce module de seconde, informatique et société numérique, il y aura effectivement une partie traitement de l'informatique en tant que telle, en tant que technique et en tant que science.
Mais justement, pas mal d'auditeurs se plaignent que dans l'éducation nationale, bien souvent, on soit équipé avec Microsoft. Hein, c'est ce que nous dit Mickaël, par exemple, un auditeur. Le pire avec Microsoft est sûrement, c'est l'auditeur qui s'exprime, le pire avec Microsoft est sûrement qu'une majorité d'établissements scolaires fonctionnent encore avec Windows et sa suite bureautique, et ils préparent ainsi les jeunes à consommer du Microsoft. Marc Mossé.
Non, moi, je voudrais rebondir, et ça me permet de répondre à cette question sur ce que disait le sénateur Assouline. Ce qui est important aujourd'hui, c'est effectivement l'éducation aux technologies de l'information. Et je regrette qu'on n'ait pas eu le temps d'en parler, ce serait peut-être l'occasion de le refaire plus tard, c'est que les technologies de l'information, on le disait, c'est l'accessibilité, c'est aussi la protection des données personnelles. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens vont sur Internet et il y a une problématique de vie privée. Et là, il y a besoin d'éduquer les jeunes. Et je sais que Frédéric Couchet sera sensible à ce thème-là, puisque l'un des adhérents les plus influents sur l'association, c'est Google. Donc évidemment, à partir de là, la question de la protection de la vie privée est une question centrale.
C'est une important. Autre question. Hein.
Non, c'est pas une autre question. Pourquoi ? Parce que quand vous achetez un ordinateur, le principal usage, aujourd'hui, c'est d'aller sur Internet. Et aujourd'hui, sur Internet, vos données, si vous n'y prenez pas garde, et s'il n'y a pas les garde-fous, elles sont utilisées par d'autres. Et on a vu plein d'exemples, encore la semaine dernière, ce pauvre internaute qui a vu sa vie privée étalée dans les médias. Nous, on a pris un engagement. C'est très important parce que on touche du doigt ce qui est la future question autour des technologies d'information. On a pris un engagement qui est d'une part de réduire à 6 mois la durée de conservation des données, et d'autre part, d'anonymiser complètement ces données pour qu'on ne vous recherche pas et qu'on ne vende pas vos données sur le net. Mais là, je suis sûr que chez Google, on a des opinions.
Je voudrais qu'on réponde à certains auditeurs qui s'inquiètent du fait que nous n'ayons pas du tout parlé de Macintosh. Par exemple, je vois qu'un auditeur nous demande, Max, par exemple, nous dit, avec un Mac, au moins, on n'a pas de problème de logiciel Microsoft. Est-ce qu'on peut quand même aborder cette question? Frédéric, si vous voulez, prenez la parole. Je sais que vous voulez répondre à Microsoft, mais très rapidement.
Oui, très rapidement à Marc Mossé quand il parle de Google comme adhérent influent de l'April. Rappelez juste que les adhérents sont tous influents à l'April parce qu'ils ont tous un droit de vote. Et un autre adhérent influent, par exemple, c'est la Ligue de l'enseignement. Et juste un dernier point, parce que avant d'oublier, tout à l'heure, Marc Mossé a dit avec justesse que Nelly Kroos a effectivement annoncé que la vente liée n'était pas, enfin, les pratiques de vente liée n'étaient pas contraires à la concurrence. Certes, mais ça, c'est en Europe. En France, Éric Besson, Luc Châtel et Bruno Parent, directeur de la DGCCRF, ont à plusieurs reprises très clairement dit que la vente liée était illégale et ont annoncé que si les constructeurs, les fabricants et les éditeurs ne mettaient pas un terme à cette pratique de la vente liée, les pouvoirs publics prendraient leurs responsabilités. On peut espérer que la nouvelle secrétaire d'État prenne ses responsabilités.
On attend qu'il le fasse. Alors, Édouard Barrero, un mot sur...
Exact.
Oui, mais là, à 10h57, on n'a vraiment plus le temps de rentrer à nouveau dans le débat de la vente liée. On a compris que vous étiez en désaccord, on l'a laissé s'exprimer. Je voudrais maintenant qu'on aborde le problème des Macintosh. Allez, on parle des Mac pour terminer l'émission.
Sur Mac, il y a deux remarques. La première, c'est un système propriétaire qui pose des problèmes, c'est-à-dire que lorsqu'on achète Mac, on reste enfermé dans l'univers Mac, ça c'est vrai. Mais il y a quand même un avantage, c'est que si vous voulez pas le système Mac, vous achetez pas un ordinateur Mac. Alors que quand vous allez dans un magasin, que vous prenez Hewlett Packard, Siemens, Fujitsu, Siemens ou je ne sais quoi, vous avez toujours Windows. Alors que Mac, il suffit juste de changer de machine. S'il y avait un ordinateur complètement Windows, il y aurait pas de problème de monopole, puisqu'il suffirait juste de changer de marque d'ordinateur et on pourrait choisir.
Vous voulez qu'on fabrique des ordinateurs, c'est ça que vous.
quitte à vouloir imposer un système, ben imposez-le dans vos propres ordinateurs et puis laissez-nous choisir après quand vers les autres.
Je crois que cette liberté de choix existe. Vous savez combien il y a d'ordinateurs qui sont vendus sans Windows?
Dites-moi.
1 million par an en France. 1 million. Donc quand on dit qu'il n'y en a pas, ça n'est pas exact.
À qui?
Ah ben, grand public, entreprise.
Est-ce que c'est au CNRS, par exemple, qui l'exige, etc. C'est pas la même chose.
1 million sur 9 millions qui sont vendus sur Windows. Non mais quand on dit
le problème c'est pas celui-là, le problème c'est aller chez Carrefour, aller chez Auchan et essayer de trouver un ordinateur Windows, c'est ça le vrai problème.
Chez Leclerc par exemple, que j'ai vu l'autre jour, vous en trouvez. Donc non, soyons précis.
On va se quitter avec une question très générale, allez, une question de culture générale, on va voir qui répond le premier. Dominique à Nantes nous demande quel est le pourcentage de Français qui ont un ordinateur et qui ont Internet.
63%.
63%.
J'ai gagné?
Oui, sans doute. Edouard Barrero, la réponse est juste.
Je ne peux pas répondre à la question, je ne peux pas dire de bêtises.
Je pense que vous avez raison. Merci à tous d'avoir participé à ce débat qui, on l'a vu, un débat très très chaud. On y reviendra certainement dans cette émission.